Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons avoir, comme c'est le cas de temps en temps, un enseignement plutôt qu'une prédication. Cet enseignement est un enseignement que nous allons faire qu'aujourd'hui, donc a priori, enfin, nous n'allons pas le, ce sera pas un enseignement sur plusieurs fois. Et c'est un enseignement qui est un tout petit peu différent puisque il est un peu moins spirituel ou je sais pas comment dire, mais quelque part, ce qui compte, c'est que nous puissions ensemble nous plonger dans la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dites ce matin, qui ont été dites dans la présidence, qui vont revenir dans l'enseignement de ce matin. Alors, nous allons nous poser la question ce matin. Je suis chrétien protestant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis chrétien protestant? Vous êtes ici dans une église qui s'appelle l'Assemblée protestante évangélique de Jumet. Qu'est-ce que ça veut dire ce deuxième mot? Je suis protestant. Ah bon? Et pourquoi? Ah bon? Et comment? Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc nous allons passer quelque temps aujourd'hui à revoir, puisque c'est des choses que vous allez revoir, que vous savez déjà, mais qui sont importantes de garder en tête pour que nous puissions connaître notre identité. La Bible dit que nous devons pouvoir défendre notre espérance. Ça signifie annoncer Christ et expliquer pourquoi nous croyons en Christ, mais c'est aussi important que nous puissions défendre ce que nous sommes. Pourquoi t'es protestant, toi? Hein? Alors parfois, on est là, on patauge, voilà. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que le mois d'octobre, c'est le mois de la célébration de la réforme protestante. C'est le mois, entre guillemets, dans lequel on célèbre cela. C'est le mois au cours duquel on célèbre le 31 octobre, qui est le jour donné de l'affichage par Luther de ses 95 thèses contre les indulgences à Wittenberg. Alors, vous vous souvenez que nous avons fêté cela en 2017, c'était les 500 ans de la Réforme. Mais quelque part, chaque année, on est invité à y repenser, à se souvenir de la réforme protestante. Et donc, en général, le dernier dimanche d'octobre, on parle de la réforme, on se souvient de la réforme. Alors, comme je n'aurai pas l'occasion de le faire le dernier dimanche d'octobre, on le fait aujourd'hui. Vous avez donc la tête de notre gentil Luther. On va pas parler de Luther. Je vais pas prêcher Luther, mais je vais beaucoup parler de Luther. Ok? Mais c'est pour replacer finalement ce qu'on va voir dans son contexte. Alors Luther est né en 1483, il était moine, c'était un prêtre catholique, il était docteur en théologie, professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg et il a rédigé les plus grands écrits réformateurs. Alors on dit parfois que Luther est le père de la réforme, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais bref, ce sont des débats dans lesquels on ne va pas rentrer aujourd'hui. Luther est celui qui a lancé le protestantisme. Il a lancé le mouvement protestant. C'est pas lui nécessairement qui a formalisé la théologie protestante, mais c'est lui qui a allumé l'allumette, n'est-ce pas, du mouvement protestant. Il a écrit des choses très importantes, très extraordinaires, et on va aujourd'hui se souvenir de certaines choses sur lesquelles il a insisté. Mais il faut savoir aussi que vers la fin de sa vie, Luther a écrit des choses inacceptables. Ça nous montre bien qu'on peut être le plus grand des hommes, on a toujours bien quelque part un petit truc qui ne va pas. Et je le dis pour encore insister sur le fait que nous n'allons pas prêcher Luther, mais nous allons simplement montrer qu'est-ce qu'il a apporté justement à l'Église. Alors voilà, ça c'est l'image où on voit Luther qui prétendument est en train d'afficher ses thèses, ses 95 thèses contre les indulgences. Alors voilà, on va pas les lire, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est l'idée que c'est l'acte, si vous voulez, qui a allumé le feu, c'est l'acte au travers duquel il s'est opposé. Luther a été catholique durant toute sa vie, il était moine, il a étudié les Écritures, et lorsqu'il a étudié les Écritures, il y a des choses dans ce qu'il voyait qui ne lui convenaient pas. Et il a dit, ce n'est pas, je ne peux pas accepter la façon dont les choses sont enseignées, sont instruites, parce que quand je lis la Bible, les choses ne me semblent pas comme ça. Luther a donné plusieurs cours. Il a donné le cours sur tel épître, mais il a aussi donné le cours sur l'épître aux Romains. Et c'est l'épître aux Romains qui va littéralement bouleverser sa pensée, bouleverser sa façon de voir les choses, et qui va l'amener à remettre en question tout ce que l'Église catholique enseigne. Les indulgences, bien sûr, mais plus largement, finalement, il va remettre en question les fondements de l'enseignement catholique. Alors ça, c'est une image aussi. Alors nous allons aujourd'hui revoir les cinq solas du protestantisme. Alors pourquoi parler des cinq solas ? Premièrement, ils résument très bien l'identité protestante. Pourquoi aussi ? Parce qu'ils sont en fait le pilier du protestantisme. Certainement qu'on vous a déjà demandé pourquoi t'es protestant ? C'est quoi ? Ou alors non, on dit pas que ça comme ça, on dit vous allez parler, hein, t'es croyant ? Oui, je suis croyant. Mais moi je suis protestant, je suis pas catholique. Ah bon ? Et c'est quoi la différence entre un protestant et un catholique ? Alors là, parfois, on est embêté pour répondre. Ou alors, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on répond par rapport à des détails. Hein, oui, nous, dans notre église, il n'y a pas de vitrail. Oui, ok. Ah oui, nous, à la messe, on n'a pas une grande... Enfin, on appelle pas ça la messe, on appelle ça le culte. Oui, bon, ok. Mais ça, c'est pas la différence. C'est pas des éléments fondamentaux. Et donc, c'est important qu'on puisse pouvoir expliquer cette différence, mais aussi, plus important, les cinq solas que nous allons revoir aujourd'hui, en fait, sont des très bonnes façons d'annoncer l'Évangile. Ils résument l'Évangile, en fait. Ils résument l'Évangile. Et ils doivent être bien compris aussi, et ils nous rapprochent de l'essentiel. Ces cinq solas, ils nous rapprochent de l'essentiel de notre foi, l'essentiel de notre vie chrétienne, l'essentiel de notre marche avec Dieu. Et enfin, les cinq solas que nous allons voir peuvent nous pousser à l'adoration. Quand on voit les solas, on n'est pas amené à lire des bouquins, on a juste envie d'adorer Dieu. On a juste envie de célébrer Dieu. Et donc ces cinq solas sont cinq expressions qui résument les bases et les fondements du protestantisme. Nous l'avons dit, pourquoi aborder ce thème ? Premier sola, le plus important, pourquoi ? Parce que c'est celui-là sur qui, c'est celui sur lequel se fondent les quatre autres. C'est le sola scriptura, l'écriture seule. L'écriture seule. Ce premier principe affirme que pour un chrétien protestant, la Bible est la seule et unique autorité. La Bible est notre seule et unique autorité en matière de foi et en matière de vie. La Bible est la seule autorité, c'est la seule qui peut me dire ce que je dois croire et comment je dois vivre. La Bible nous donne pleinement la révélation de qui est Dieu. Elle nous donne pleinement la révélation du plan de Dieu. Avec la Bible, j'ai l'entièreté de ce que je dois croire et de ce que je dois vivre. Quand on dit la Bible seule, ça signifie, ou les Écritures seules, je préfère les Écritures seules, ça signifie que la Bible n'a pas besoin d'avoir d'ajout. La Bible n'a pas besoin d'avoir de soutien. La Bible n'a pas besoin d'avoir en plus une tradition. Elle n'a pas besoin d'avoir en plus un manuel d'explication. Elle n'a pas besoin d'avoir en plus un catéchisme. La Bible se suffit à elle-même. L'idée fondamentale, c'est que Dieu s'est pleinement révélé dans sa parole. Dieu, dans la Bible, nous a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Alors, pour un protestant, ça semble une évidence. Mais rendez-vous compte que ce n'est pas si simple que ça. Parce que c'est quand même très courageux de dire ça. Donc, dans ce bouquin-là, Dieu a tout dit. C'est ce que le croyant pense. Dieu a tout dit dans sa parole, il s'est pleinement révélé, de telle sorte que la Bible est pour nous la seule et unique référence. Pourquoi est-ce que nous pensons que la Bible est la seule autorité ? Premièrement, parce que nous pensons, ou la Bible dit d'elle-même, que l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'Écriture est inspirée de Dieu. Dieu a inspiré l'Écriture de telle sorte qu'elle seule a autorité. Tout autre écrit humain n'est pas inspiré. Il y a plein de beaux écrits, mais qui ne sont pas inspirés. Et même quand des écrits sont inspirés, imaginez un théologien qui écrit un bouquin, il peut écrire un très beau bouquin sur Jésus, il peut être inspiré par Dieu, mais ça ne sera jamais le même niveau ou la même qualité d'inspiration. La Bible seule est inspirée par Dieu. L'idée aussi, c'est que, en d'autres termes, Dieu est l'auteur de la Bible. Dieu est l'auteur de la Bible au travers des hommes qu'il a inspirés pour écrire. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont écrit. Par l'intermédiaire de leur esprit et de leur personne, Dieu a fait révéler sa personne dans la Bible. C'est important de dire que c'est par l'intermédiaire de leur personne. Quand on lit la Bible, on voit clairement la personnalité des gens. Donc nous ne croyons pas que Dieu a dicté l'entièreté de la Bible. Nous ne croyons pas que Dieu a donné la Bible telle qu'elle, écrite. Nous croyons qu'il a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent quelque chose qui est juste à son sujet, avec leur subjectivité. En d'autres termes, celui qui avait une sensibilité de scientifique a écrit avec une sensibilité de scientifique. Celui qui était juriste a écrit avec une sensibilité de juriste. Donc la subjectivité, la personnalité des gens se ressent dans le texte biblique. C'est la différence notamment avec l'enseignement sur le Coran, hein, que Benoît nous a rappelé. Le Coran est conçu comme étant donné tel quel par Allah, et puis c'est terminé. Non, pour nous, il y a l'effet de la subjectivité, mais c'est bien le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes pour écrire. L'idée principale, que vous allez bien retenir aujourd'hui, la Bible est suffisante et infaillible. Premièrement, la Bible est suffisante. Il faut dire ce mot-là et pas un autre. Il ne faut pas dire « la Bible est complète ». Ce n'est pas vrai. La Bible est suffisante. La Bible est suffisante, elle ne dit pas tout, elle ne traite pas tous les sujets, mais elle nous dit ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre selon Dieu et pour que nous puissions le glorifier. La Bible me suffit. Dans l'Église, dans la vie chrétienne, nous avons des casse-têtes parce que la Bible ne dit pas tout. La Bible ne règle pas tout. La Bible n'encadre pas tout. Il y a plein de sujets dont la Bible ne parle pas, même des sujets dont on aimerait bien dire, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire ? La Bible ne dit pas tout, mais elle nous dit ce qui est suffisant. Elle est suffisante, elle nous dit ce qui est nécessaire. Ça, c'est l'idée que, premièrement, la Bible nous enseigne des choses fondamentales que nous pouvons prendre telles quelles, mais c'est aussi l'idée que, à partir de la Bible, nous pouvons déduire des réponses aux questions que nous nous posons. En d'autres termes, dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un chrétien, nous avons parfois des cas de conscience, où nous avons des situations où on se dit « qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire ?» La Bible ne traite pas forcément ces questions-là, mais elle nous donne les repères pour que nous puissions répondre à ces questions. Donc, il y a plein de situations comme ça, je sais pas moi, si, enfin, il y en a des milliers. Maintenant, aujourd'hui, quand un chrétien se demande « est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je peux pas ? Est-ce que je peux faire ça, ci ou faire cela ?» Ben, c'est compliqué de savoir. La Bible ne répond pas à tout, mais à partir de ce qu'elle dit, je peux faire des déductions, je peux comprendre, parce que la Bible nous donne des principes, elle nous donne des repères, et elle permet dès lors que le chrétien sache comment il peut faire pour glorifier Dieu. Par exemple, la Bible me montre ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. La Bible me montre qu'est-ce que Dieu veut. Alors, pour prendre l'exemple simple, hein, c'est les précieux 10 commandements. Les 10 commandements me disent ce que Dieu veut. Mais on n'imagine pas le nombre de principes chrétiens qui sont tirés des 10 commandements. Rien que des 10 commandements, il y a plein de choses qui sont logiques. Hein, si vous vous demandez, est-ce que je peux, je sais pas moi, quel exemple, est-ce que je peux mentir à mon patron pour tel sujet ou tel... Bon, voilà, elle répond clairement. Mais maintenant, quand il y a des choses plus complexes, imaginez que que dans des situations où on se dit « oui, j'aimerais écrire quelque chose qui n'est pas tout à fait la vérité, mais qui n'est pas... » Le commandement lui-même m'instruit sur le fait que, en fait, quand je comprends ce qu'est un mensonge selon Dieu, je comprends que cette situation, je peux la qualifier de mensonge également. Donc il y a ça, il y a toutes les questions contemporaines qu'on a parfois. Hein, la question de comment est-ce qu'on gère tel type de situation, comment est-ce qu'on gère les différents types d'identité sexuelle, comment est-ce qu'on fait pour gérer telle et telle situation, la Bible nous donne les éléments de base pour pouvoir y répondre. La Bible est la référence, tout doit être jugé à sa lumière. Nous croyons, et ça c'est important de bien le comprendre, que le message de Dieu a été préservé dans la Bible. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas forcément des erreurs qui aient pu se glisser. Mais nous croyons que ce sont des erreurs qui n'altèrent pas le message. D'accord ? Alors, imaginez, je donne toujours cet exemple-là, imaginez que j'écrive un message à Gino et que je lui dise « Gino, il y a réunion jeudi, est-ce que tu pourrais dire donc, imaginons, il y a réunion des diacres jeudi. Est-ce que tu pourrais dire à, je sais pas, Jacqueline, que la réunion est à 19h ? D'accord ? Le message est faux. Quelque part, le message... Mais Gino va comprendre ce que je veux lui dire. Gino va comprendre que je me suis trompé de prénom et que j'ai mis Jacqueline plutôt que mettre Rose. D'accord ? Donc, le message est préservé. D'accord ? Le message en lui-même, ce que j'ai voulu dire à Gino, est préservé. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez certainement déjà lu dans vos Bibles des notes de bas de page où on vous dit, ici, il y a potentiellement une erreur de copiste. Vous avez déjà vu ça, non ? Jamais ? Si vous prenez des Bibles d'études, parfois, vous avez déjà peut-être vu des notes de bas de page où on vous dit, mais en fait, là, par exemple, il y a un endroit dans un des livres des prophètes où il y a un mot qui est, je ne sais plus si c'est Israël ou un autre mot, ou Judas, et en fait, la note de bas de page est de se dire, en fait, on pense qu'il y a là une erreur de copiste. C'est-à-dire qu'en fait, le mot était Judas et pas Israël. Hein ? Mais ça ne change rien au message. Ça n'altère pas le message. Le message de Dieu est préservé. Ce que Dieu a voulu dire aux humains est préservé. Autre idée importante, la Bible est la référence. Ce qui ne signifie pas que tout s'y trouve. Dans l'Église, c'est une discussion qu'on a en permanence. On va toujours se demander, oui, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Alors, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Chaque fois que ce n'est pas écrit dans la Bible, ils disent que ce n'est pas bien. Ça, c'est vraiment ne pas comprendre l'idée du sola scriptura. La Bible est la référence. Ça veut dire que tout est jugé à la lumière de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'elle parle de tout. Il y a plein de choses que nous définissons dans la vie chrétienne, dans la vie d'Église, qui ne sont pas écrites dans la Bible. D'accord ? Plein de choses. On ne dit pas dans la Bible à quelle heure doit commencer le culte. On ne dit pas dans la Bible quand on doit faire les réunions. On ne parle pas des membres et des non-membres. Il y a plein de choses dont on ne parle pas dans la Bible. Mais la Bible est la référence et donc on va toujours juger ce que l'on fait au regard et à la lumière de la Bible. Nous croyons que dans la Bible, alors ce que je disais concernant les erreurs de copiste, c'est extrêmement minime, hein, on se comprend, hein, c'est des détails. Mais c'est quand même important parce que si vous lisez des grands critiques littéraires, ils vont peut-être parfois, si vous regardez des vidéos de critiques littéraires, ils vont peut-être vous dire « Ah oui, il y a des erreurs, machin, tout ça ». Ah oui, mais d'ailleurs quand on compare les manuscrits par exemple, parfois on compare des manuscrits et on se dit « Ah ben en fait, là c'est pas exactement la même chose, mais le message est préservé ». Mais nous pensons, c'est important, qu'il n'y a rien à ajouter et qu'il n'y a rien à retrancher dans la Bible. La Bible est suffisante, je ne dois pas y ajouter mes doctrines, mes pensées, je ne dois rien retrancher, elle est suffisante en elle-même. Il y a même, vous le savez, une malédiction dans Apocalypse 22 pour celui qui se permet d'ajouter ou de retrancher. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien y retrancher. Alors, vous connaissez l'histoire... l'histoire de cette sœur qui n'habitait pas en Australie, hein, qui habitait dans la région de Charleroi, qui arrachait les pages de la Bible où elle estimait que c'était plus valable. C'est la belle vie. Hein, alors, ça nous fait rire, et c'est vrai que le faire physiquement, c'est un peu particulier, mais n'oubliez pas que nous le faisons très souvent. Nous. Hein, quand on dit, ça c'était pour avant, ça c'était dans une autre culture, tu considères que voilà, ça je retranche. Alors, c'est sûr qu'il faut bien interpréter le texte. C'est sûr qu'on ne va pas venir dimanche matin sacrifier des agneaux ici. Pourquoi ? Parce qu'on comprend l'enseignement du texte biblique. Mais nous devons faire attention parce qu'on peut avoir vite tendance, dans nos pratiques, à supprimer des choses de la Bible. En dévalorisant certains aspects, en dévalorisant certaines doctrines, parfois nous les mettons à la poubelle. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à ajouter. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ? C'est aussi le débat du monde protestant. Alors, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui ? La réponse est oui. Oui. C'est quelque chose qui nous est montré dans la Bible. Premièrement, Dieu s'exprime au travers de sa parole écrite, appliquée par le Saint-Esprit. Dieu parle dans la Bible telle qu'elle. D'accord ? Ça, c'est un. Dieu parle dans la Bible telle qu'elle est inspirée. Mais Dieu parle aussi dans la Bible telle qu'elle va nous être montrée par le Saint-Esprit. On a déjà donné cet exemple 1000 fois. Vous êtes dans une situation de vie, vous avez un conflit, vous avez une difficulté, vous avez un souci. Vous prenez votre Bible pour votre méditation quotidienne, vous l'ouvrez, vous vous mettez à lire, et puis tout à coup, il y a un verset qui vous frappe, et vous savez que Dieu vient de vous parler. D'accord ? Donc ça, c'est la Bible appliquée par le Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit fait parler la Bible dans ma vie. D'accord ? Donc Dieu parle par la Bible en elle-même, Dieu parle par le Saint-Esprit qui applique la parole dans ma vie. Mais Dieu parle encore de différentes manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par les circonstances de vie. Parfois, on se pose une question, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite ? Et la porte de droite s'ouvre et celle de gauche reste fermée. Seigneur, j'ai compris, je dois aller à droite. Donc Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par des prophéties, Dieu parle par des songes, par des visions, Dieu parle par des signes. Dieu parle de différentes manières. Pourquoi ? Parce que le chrétien, au quotidien, a besoin que Dieu lui parle. Le chrétien a besoin de savoir où est-ce qu'il doit aller. Il a besoin de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dieu parle par des convictions. Parfois, il met des convictions dans nos cœurs. Il parle de différentes façons. Mais nous n'aurons jamais de nouvelles révélations sur les doctrines essentielles de la Bible. Nous n'aurons jamais de nouvelles révélations. Nous n'aurons jamais de nouvelles informations. Parce que Dieu a dit l'essentiel dans sa parole. Jamais nous n'aurons de révélation d'un autre sauveur, d'un autre Saint-Esprit, d'une autre façon d'être sauvé. Dans les doctrines, dans l'enseignement de la Bible est complet. Et puis quatrièmement, jamais aucune révélation ne pourra contredire quelque chose qui est écrit. Jamais une vision, jamais un songe, jamais une conviction ne peut s'opposer à ce qui est écrit. Dieu me parle, mais je juge ce que je pense, ce qu'on me dit, ce que je vis à la lumière de la Bible et de la Bible seule. Alors, confession de La Rochelle, je la donne rapidement. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse, ni humaine, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette Écriture sainte. Rien dans la vie du croyant ne peut s'opposer à l'Écriture sainte, à la parole de Dieu. Deuxième principe, solus Christus, Christ seul. Le Christ seul. Christ seul est la source de salut. Seul Jésus peut sauver. Christ seul peut nous sauver du péché par son sang. Il n'y a pas d'autre sang qui purifie. Christ seul est en mesure d'être médiateur entre Dieu et les hommes. Christ seul peut nous donner la vie éternelle. Bien plus, Christ seul peut nous faire bénéficier des bénédictions de Dieu. Je ne peux pas recevoir quelque chose de ma relation avec Dieu en dehors de Christ. C'est Christ qui me donne le salut et c'est Christ qui me permet d'accéder aux bénédictions qui émanent de Dieu. Christ seul nous permet de nous approcher de Dieu. Christ seul, personne d'autre. Pas besoin de Marie comme comédiatrice, pas besoin des saints, pas besoin des anges, pas besoin du pape, pas besoin du pasteur, pas besoin... Christ seul. Jésus seul est la source de notre salut. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a pas besoin d'autre intermédiaire. Pas besoin de Marie, pas besoin d'autres intermédiaires pour nous approcher de Dieu. Mais aussi, plus fondamentalement, Christ seul est le chef de l'Église. L'Église n'a pas d'autre chef que Christ, que Jésus. Et s'il y a des responsables dans l'Église, ils doivent se contenter d'obéir à Jésus et de manifester la volonté de Jésus dans l'Église. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui rajoute à ce que Jésus a dit, à ce que Jésus a fait, parce que lui seul est chef de son Église, lui seul est chef de son troupeau. Christ seul est la voie du salut. Il n'y a que par Jésus que je peux être sauvé. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Christ seul est la porte du salut. Quand on évangélise, c'est ça qu'on doit dire aux gens. Quand on parle aux gens dans la rue, Christ seul, t'as pas d'autre espérance que Jésus, t'as pas d'autre voie que Jésus, t'as pas d'autre porte que Jésus. Jésus t'est donné, et lui seul, pour ton salut, pour ta rédemption. Jésus est le seul nom qui sauve, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés et obtenir le pardon de Dieu. Jésus seul a tout accompli par son œuvre, et son œuvre seule pourvoit à notre justification, dont on a parlé ce matin, à notre réconciliation et donc à notre salut. Jésus a tout pourvu. Il est tout pour moi, dit le chant. Il est tout pour moi. Il est mon salut, il est ma gloire, il est ma délivrance, Jésus seul. Je ne peux donner cet honneur et cette gloire à personne d'autre qu'à Jésus, ni chez les humains, ni chez les êtres spirituels, ni chez personne. Alors, je vais juste prendre la première citation de la confession de foi des Vaudois, et ça va vous faire sauter de joie tellement c'est fort, n'est-ce pas ? Nous croyons que Christ est notre vie, notre vérité, notre paix, notre justice, notre pasteur, notre avocat, notre victime, notre sacrificateur, lequel est mort pour le salut de tous les croyants et ressuscité pour notre justification. Jésus est ma paix, ma vérité, ma justice, mon avocat, mon sacrificateur. Jésus seul est tout cela pour moi. Troisième sola, sola gratia, la grâce seule. Dieu nous sauve par pure grâce, on l'a aussi dit ce matin. Dieu nous sauve par pure grâce. Sa grâce est un cadeau qu'il nous fait. C'est un cadeau reçu gratuitement qui ne résulte d'aucune œuvre et d'aucune action humaine. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de mérite qui soit à l'origine de la grâce de Dieu envers nous. Nous ne faisons qu'ouvrir les mains et recevoir le cadeau qui nous est donné. La grâce seule. Important de noter une chose, c'est que tout est grâce. Tout. Dans la vie du chrétien, tout est grâce. Pourquoi c'est important de dire ça ? On a dit qu'il n'y a aucune œuvre, aucun mérite, aucune action qui peut nous sauver. Mais il est aussi important de dire que tout notre salut est l'œuvre de la grâce. Même le fait que je me tourne vers Christ, c'est l'œuvre de la grâce. Personne ne peut venir à Jésus si le Christ, si le Saint-Esprit ne nous touche pas. Même le fait que je me tourne vers Jésus, c'est encore l'œuvre de la grâce. Donc notre vie avec Christ commence par l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Sans cette œuvre-là, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas croire sans l'œuvre du Saint-Esprit. Même le fait que je crois, c'est encore l'œuvre de la grâce. C'est Dieu qui fait naître en nous la foi. Donc même la foi n'est pas une œuvre. La foi n'est pas une œuvre que je peux brandir en disant « Seigneur, je crois ». Non, c'est Dieu lui-même qui fait naître la foi en nous. C'est Dieu lui-même qui nous permet de naître de nouveau. C'est l'œuvre de la grâce que nous naissions de nouveau. C'est l'œuvre de la grâce également que nous nous sanctifions. Quand nous commençons à nous sanctifier, à vivre pour Dieu, à obéir à Dieu, tout cela, c'est l'œuvre de la grâce. Seule la grâce peut produire ça en nous. Quand on grandit spirituellement, quand on apprend à mieux prier, à mieux lire la Bible, à mieux adorer Dieu, quand on sent qu'on grandit, c'est l'œuvre de la grâce. Personne ne peut grandir spirituellement sans l'œuvre de la grâce. Et donc c'est important de le rappeler et d'insister pour que nous ne devenions pas des chrétiens légalistes ou des chrétiens qui se reposent sur leur propre force, qui cherchent en eux-mêmes la capacité d'avancer. Tout est grâce. Je ne peux rien faire sans sa grâce. Je ne peux pas le servir sans sa grâce. Je ne peux pas mieux le connaître sans sa grâce. Tout dans la vie chrétienne émane de lui et rien de nous. Donc le chrétien ne fait que coopérer à la grâce. La grâce m'est donnée, elle vient de Dieu, et moi je la reçois et je la laisse agir dans ma vie. Et quand je laisse cette grâce agir dans ma vie, je commence à grandir spirituellement, je commence à prier, je commence à servir, c'est l'œuvre de la grâce en moi. Et donc je dois rechercher l'œuvre de la grâce et ne pas attendre mes propres forces, mes petites capacités, mes petites idées, mes petites envies. Je dois me reposer sur la grâce de Dieu qui fait toutes choses en moi. Cette grâce, elle nous enseigne. Cette grâce, elle nous pardonne, mais c'est une grâce qui nous instruit. Elle est pédagogique, la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne, elle nous conduit à renoncer à l'impiété, à renoncer à notre vie mondaine. Lorsque je reçois la grâce, elle me conduit à renoncer à ma vie mondaine. Elle me conduit à vivre dans la justice et dans la piété, à vivre d'une façon qui plaît à Dieu. La grâce me conduit à vivre dans l'espérance du retour de Christ, à vivre dans l'espérance, dans l'attente. La grâce me donne le zèle pour les bonnes œuvres. Et la grâce fait de nous, en tant que peuple, en tant qu'Église, un peuple mis à part. Tout ça, c'est l'œuvre de la grâce. La grâce nous enseigne, la grâce nous conduit. Il y a ce chant qui dit « C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. » Seule ta grâce. Sola fide, il en reste deux, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Sola fide, la foi seule. Quand on me demande ou quand on se pose la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?», la réponse est « Croire ». Point. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Croire. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas le sacrement, le baptême ou la Sainte Cène ou autre chose qui nous sauve, c'est uniquement notre foi. Nous sommes sauvés par le moyen de notre foi. Alors la foi, c'est quoi ? La foi, ce n'est pas une croyance vague et imprécise dans quelque chose. La foi, c'est l'adhésion de tout notre cœur et de toute notre personne à la vérité qui nous est présentée dans la parole de Dieu, à la vérité de l'Évangile. La foi, c'est une adhésion, une obéissance de tout notre être à la vérité et à Dieu qui est l'auteur de la vérité. Par la foi en Christ, je m'approprie pleinement ce qu'il a fait pour moi. Je crois, je le reçois, je me l'approprie, je le reçois dans ma vie. Je crois. C'est pas je crois comme je crois que les pommes de terre sont cuites. Je crois, tout mon être adhère et se donne à mon Sauveur et à ce qu'il me dit. Nous sommes justifiés par cette foi, on l'a largement rappelé aujourd'hui, par le moyen de la foi. Et le juste, c'est d'ailleurs le verset le phare de Luther, le juste vivra par sa foi. C'est la foi qui nous donne la vie, c'est la foi qui nous fait vivre. Alors c'est une foi vivante. Et je vais insister là-dessus avant de terminer par le dernier. C'est une foi vivante. Galates 5, versets 5 à 6 nous dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » On y est encore. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » La foi qui est agissante par la charité. C'est une foi qui est vivante. C'est une foi qui produit quelque chose. La foi est agissante par la charité, par l'amour. La foi que nous avons nous conduit à aimer. Elle nous conduit à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et alors que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain, nous allons produire des œuvres de sanctification pour plaire à Dieu et des œuvres de charité. Avant, on inversait tout, les œuvres et ensuite, non, la foi est première et c'est la foi qui produit l'amour pour Dieu, pour le prochain et qui produit les œuvres. La foi est le germe de la vie de Dieu en nous et elle est opérante par l'amour. Et c'est cet amour qui accomplit pleinement la loi de Dieu. Je vais donner cette citation de Luther qui est quand même très importante, très belle. La foi est en fait une œuvre de Dieu en nous, qui nous transforme et nous fait naître à nouveau de Dieu. Elle tue le vieil Adam et elle fait des hommes tout autres quant au cœur, au tempérament, à la pensée et à toutes les forces et apporte avec elle l'Esprit Saint. Oh, c'est une chose vivante, agissante et active et puissante que la foi, au point qu'il est impossible qu'elle ne puisse produire des effets bénéfiques. Elle ne demande pas non plus s'il y a des œuvres à faire, la foi, mais avant même qu'on lui ait demandé, elle les a faites, et elle est toujours en action. En revanche, celui qui n'exécute pas ses œuvres est un homme dépourvu de foi. La foi est une confiance vivante, inébranlable en la grâce de Dieu, si assurant que le croyant mourrait mille fois pour elle. Cette confiance, cette connaissance de la grâce divine rend joyeux, imperturbable et agréable à Dieu et à toutes les créatures. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint dans la foi. À partir de là, le croyant devient, sans contrainte, déterminé et prêt à faire du bien à tous, à rendre service à tout le monde et à endurer toutes les souffrances pour l'amour et la gloire de Dieu qui a accordé une telle grâce, de sorte qu'il est aussi impossible de séparer les œuvres de la foi que de séparer du feu la chaleur et la lumière. La foi est agissante, la foi produit des œuvres, la foi est productrice. C'est cette foi vivante qui nous sauve. Alors, nous terminons en 2 minutes sur le dernier. Comme c'est Anthony, je peux dépasser parce que Anthony, ça ne le dérange pas. Lui, quand les autres, oui, hein, les autres, ils sont plus. Oh non, on a dépassé l'heure. Anthony, il a la vie de l'esprit et donc. Soli Deo Gloria. À la gloire de Dieu seul. Pourquoi tout ça? Pourquoi le salut? Pourquoi toutes ces choses-là? Pour la gloire de Dieu seul. Dieu seul doit être loué, Dieu seul doit être adoré. Pas de saint, pas d'image, pas de relique. Dieu seul mérite la gloire. Et bien plus, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour sa seule et unique gloire. Il a fait ce qu'il a fait, il nous a sauvés, afin que personne ne se glorifie, mais afin que lui seul reçoive toute la gloire. On va tous arriver au ciel et on va tous dire « Mais t'as fait quoi pour être ici ?» Rien, c'est lui. Et toi, t'as fait quoi ? Rien, c'est lui. T'avais pas des œuvres ? Rien du tout, c'est lui. Et nous allons tous adorer celui qui a tout fait en nous, celui qui a tout fait pour nous. Dieu nous a sauvés pour sa gloire. Nous sommes donc invités, c'est important, et c'est ça la destinée du chrétien, à célébrer la gloire de sa grâce. Pour toujours, nous allons célébrer la gloire, la grandeur, la puissance de sa grâce. Il nous a sauvés par pur cadeau et nous allons donc célébrer sa gloire. à Dieu seul la gloire. Nous allons célébrer sa gloire, nous allons l'adorer dans notre vie sur terre, notre vie va être une vie d'adoration, parce qu'il a tout fait pour nous. Mais aussi, nous allons vivre pour sa gloire. Vivre pour lui, vivre pour le glorifier, vivre pour sa gloire. Le verset dit, tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout vient de lui. Tout est par lui et tout est pour lui la gloire, pour lui seul la gloire. Voilà notre foi, notre beau, merveilleux salut, notre belle foi protestante aussi. Alors quand on vous demandera encore, c'est quoi la différence entre un protestant et un catholique ? Ne dites pas, ah oui, nous, on n'a pas un clocher, on n'a pas de sonnette, on n'a pas... Non, voilà ce que nous croyons et voilà ce qui dynamise notre vie, ce qui fait de nous des authentiques disciples de Jésus-Christ. Amen.